Bonjour à chacun et à chacune. Si vous trouvez qu'il y a un petit air de ressemblance avec votre pasteur, ne vous affolez pas. Nous sommes de la même famille, doublement d'ailleurs. Donc, je m'appelle Jean-Yves Le Guéhennec. Et en fait, nous venons donc avec notre famille. Marie-Salomé, mon épouse, est là. Et nos deux filles, je pense qu'elles sont à côté. Je ne les ai pas vues passer. Mais... Donc, nous sommes venus nous sommes en vacances, en fait, tous les quatre. Et nous venons du nord de la ville d'Orange, une petite ville qui s'appelle Pierrelatte, et qui est connue pour ses crocodiles, entre autres, sa ferme aux crocodiles. Et donc je suis pasteur depuis septembre dans cette église là-bas, après avoir été pasteur dans une église grenobloise. Et j'ai deux mi-temps, donc je suis pasteur à mi-temps, et l'autre mi-temps, je travaille au développement de la jeunesse dans notre famille d'église, qui est la famille CAEF. Voilà, Communauté Assemblée Évangélique de France. Ça, c'est pour la présentation. Il me semble qu'on pourrait dire que la vie est une histoire, se résume à une histoire de bocal. Vous connaissez sans doute cette histoire. On raconte qu'un jour, un vieux professeur fut engagé pour faire une intervention sur la gestion du temps à l'occasion d'un colloque de grande renommée internationale. Et même quand il s'agit de parler de gestion du temps, l'homme est pressé, et aussi seulement un petit quart d'heure lui fut accordé pour s'exprimer. Et le jour J, tous attendaient l'intervention du vieux professeur avec impatience, et dans un silence pesant, lorsqu'il fut sur l'estrade, sortit un bocal de son cartable. Et avec un geste lent, il commença à placer à l'intérieur de ce bocal, un par un, des gros cailloux, gros comme des balles de tennis. Et quand le bocal fut rempli de cailloux, il se tourna vers l'assistance et demanda « Le bocal est-il plein ?» Et tous répondirent sans hésitation « Oui ». Et il ajouta « Vraiment ?» Alors il replongea vers son cartable en cuir pour en extraire un sac de gravier qu'il versa dans le bocal jusqu'à ras-bord. Et il demanda à nouveau « Le bocal est-il plein ?» Cette fois-ci, la brillante assemblée ne se laissa pas berner et répondit « Non ». Le vieil homme continua alors de sortir de son cartable un sac de sable qu'il vida dans le bocal et demanda « Le bocal est-il plein ?»« Non, répondirent en chœur tous les participants. »« Bien, dit le vieux professeur avec un brin de malice. » Il saisit alors la carafe d'eau posée sur sa table de conférence qu'il versa jusqu'à ras-bord. Levant les yeux, il posa la question « Qu'est-ce que démontre cette expérience ?» Parmi la brillante assemblée, une personne tenta de répondre. Faisant le thème avec le lien avec le thème de la gestion du temps, elle répondit « Vous venez de nous montrer que même si notre emploi du temps paraît déjà très plein, nous pouvons encore essayer de le remplir, comme avec le gravier, le sable, puis l'eau, pour être encore plus performant. » Avec un doux regard malicieux, notre vieux cher professeur se contenta de dire « Ce n'est pas ce que j'ai voulu démontrer. » Quelqu'un a-t-il une autre idée ? Grand silence dans les rangs de l'amphithéâtre. Le vieil homme poursuivit alors. Ce que j'ai voulu vous démontrer, c'est que si je n'avais pas placé les gros cailloux d'abord, jamais je n'aurais pu mettre dans le bocal tout ce que j'ai réussi à y mettre. Devant l'évidence de cette réalité, un profond silence dans la salle se fit entendre. Je vais prier. Dieu éternel, tu nous parles de tout temps et encore aujourd'hui. Rends-nous sensibles à ta voix pour que nous puissions t'écouter avec attention. Nous ici dans cette salle, aussi... Les enfants qui sont à côté, tu as des paroles de vie pour chacun d'entre nous. Amen. J'aimerais lire le texte qu'on trouve écrit par l'évangéliste Luc. Au chapitre 10, je vais lire les versets 38 à 42. Luc, chapitre 10, les versets 38 à 42. Luc 10, 38, 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te file rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider ?» Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » C'est un récit court, 5 versets, et les paroles de Jésus n'en constituent pas la moitié, mais pourtant, quelles paroles ! Quelle parole. Comme toutes les paroles de Jésus, ce sont des paroles qui sont pleines de sens encore pour nous aujourd'hui. Et j'ai même envie de rajouter peut-être encore plus pour nous aujourd'hui, je ne sais pas. À la lecture de ce texte, je ne sais pas avec qui vous avez tendance à sympathiser plus naturellement. Est-ce Marthe ou Marie ? Il est possible que votre propre réponse à cette question révèle quelque chose de vous en ce moment. Et si ça se trouve aussi, il se pourrait bien que tour à tour, nous puissions nous identifier à l'une puis à l'autre de ces deux sœurs. Alors le plan de cette exhortation, je vous le donne pour que ça puisse vous aider à suivre aussi. La première partie, on va considérer la perspective de Marthe. Dans notre première partie, on va considérer un peu l'attitude de Marthe. Ensuite, nous verrons les paroles du Maître. Nous considérerons les paroles de Jésus. Dans la troisième partie, je ferai un constat. Je ne vous en dis pas plus. Et puis, dans une quatrième partie, nous verrons cette bonne part bienfaisante. Comme ça, en principe, vous allez capter dans quelle partie nous sommes. Alors, essayons tout d'abord de rejoindre la perspective de Marthe. Dans cette première partie, la perspective de Marthe. Sans doute, l'un ou l'autre parmi nous se verrait bien entrer en scène et intervenir avec des paroles du genre « Mais enfin, Jésus, comment ne réagis-tu pas devant une telle irresponsabilité ?» Deux choses agacent notre Marthe bien-aimée. Non seulement je me sens un peu seule à m'occuper de cela, mais en plus, Jésus n'en dit rien. Mais bon sang, Jésus, dis quelque chose. Double agacement, double irritation, même si la seconde n'est pas exprimée dans le texte, et peut-être même triple agacement, car non seulement Jésus ne me soutient pas, en allant dans mon sens, et alors je ne me sens pas comprise, mais le comble est qu'il me reprend. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Je reviendrai sur ce beaucoup de choses un peu plus tard. Alors qu'est-ce que nous n'aimons pas être incompris, qui plus est par Jésus ? Et honnêtement, au premier abord, le point de vue de Marthe ne me semble pas difficile à défendre. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de cela. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de ses tâches domestiques. Si personne ne s'en occupe, elles ne vont pas se faire toutes seules. L'attitude de Marie s'inscrit parfaitement dans une vie monastique, dans un cadre de retraite spirituelle, mais en aucun cas dans une situation quotidienne. Jésus Cela ne te fit-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Bref, à côté de son affairement, ni l'attitude de Marie, qui est jugée trop passive, ni celle de Jésus ne semblent correspondre aux attentes de Marthe. Une pensée qui pourrait nous venir à l'esprit dans nos contextes de rentrée post-rentrée, ça fait maintenant 2 petits mois qu'on a attaqué la rentrée, mais la rentrée met du temps à se lancer souvent, il y a beaucoup de choses. C'est bien beau d'écouter des enseignements, des prédications, mais cela ne fait pas avancer les choses au quotidien. Le travail, les courses, le ménage, le linge, la préparation des repas, le soin apporté aux personnes de la maisonnée, aux relations avec nos voisins, nos amis, les divers clubs des enfants, les trajets qui vont avec, les suivis des factures, la tonte de la pelouse, l'entretien, la réparation des biens que Dieu nous a confiés, la gestion de nos imprévus, etc. Tout cela ne va pas se faire tout seul. Est-ce que Jésus est vraiment conscient de ce qu'il avance ? Parce qu'après tout, Marthe n'est pas en train de perdre son temps. Elle n'était pas en train de laisser sa marque sur un sofa en passant des heures devant un écran ou à remplir des sudoku en pleine journée. Marthe était occupée à divers soins domestiques, précise le texte. Elle ne fait rien de mal. Elle était en train de servir. Et non seulement il y a des choses pires que de servir, mais servir, c'est ce qui est attendu par Dieu, en réalité. Dieu lui-même. Jésus en personne n'est-il pas venu pour servir de quantité de manière ? Il est évident que nous avons grandement besoin de personnes qui servent, que ce soit dans les maisonnées, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les sociétés. Au passage, ce récit peut illustrer la mécompréhension interpersonnelle entre personnes, voire le jugement, qui peut exister au sein de relations fraternelles, ou même au sein des familles, ou même à l'intérieur d'un couple. Si jamais cette situation qu'on décrit en ce moment reflétait le quotidien de ces deux sœurs, on peut supposer que par moment, la cohabitation entre une Marthe et une Marie pouvait être un peu délicate. On peut imaginer le genre de dialogue entre une personne un peu plus active et une autre un peu plus facilement tournée vers la contemplation de Dieu. Mais quand est-ce qu'elle met la main à la pâte ? Je fais tout ici. Ou bien, au contraire, mais quand est-ce qu'elle s'arrête et qu'elle se ressource calmement au pied de Jésus ? Son activisme me fatigue. Tempérament différent ? Priorité différente ? Nous venons donc de considérer le genre de raisonnement que nous pourrions avoir lorsque nous sommes dans la situation de Marthe. Et franchement, je trouve que c'est compréhensible. Marthe ne fait pas de choses inadéquates. Regardons à présent les paroles du Maître, les paroles de Jésus. Est-il vraiment de ce qu'il avance ? avait donc pu se questionner Marthe. C'est une question sensée. Et encore plus sensée que cette question sont les paroles de Jésus. Alors écoutons-les, ces paroles, attentivement. Ces quelques mots, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. En étudiant le texte, je me suis rendu compte que ma mémoire m'avait joué un tour. Je croyais me souvenir que Jésus lui reprochait de s'agiter pour rien. Mais ce n'est pas ce qu'il lui dit. Il lui dit qu'elle s'agite, il ne dit pas qu'elle s'agite pour rien. Il lui dit en revanche qu'elle s'inquiète pour beaucoup de choses. Et le traducteur Alfred Kuhn écrit qu'elle se laisse absorber par beaucoup trop de choses. Dans le ton qu'il utilise à l'égard de Marthe, Jésus est sans doute plein de tendresse. Nous savons par un autre texte que Jésus aimait cette famille et Jésus n'a rien contre l'hospitalité ou la générosité qui peut s'exprimer envers des invités, au contraire. Donc à l'évidence, Jésus n'est pas fâché, il n'est pas en colère. Alors ne jetons pas la pierre à Marthe, Jésus ne le fait pas lui-même et ce n'est pas notre rôle du tout. Mais revenons à ces paroles de tendresse. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. En ce début d'automne, Comment nous sentons-nous ? Peut-être pour quelques-uns, c'est difficile de ne pas nous sentir affairés. Affairés, voire inquiets, agités comme Marthe. Après tout, il y a quantité de choses à faire pour lancer une année. Mettre des choses en place, relancer une dynamique, trouver un rythme de croisière, ça change chaque année. Tout cela est très mobilisateur et ça peut être aussi source d'inquiétude, même d'anxiété, de troubles, d'irritation. Tu t'agites pour beaucoup trop de choses, dit Jésus avant de poursuivre. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est une chose que personne ne lui enlèvera. Marthe est inquiète et s'agite pour beaucoup de choses. Elle se met la pression alors qu'une seule chose est nécessaire. Et cette chose nécessaire, indispensable, c'est-à-dire qui ne peut pas ne pas être, qui ne devrait pas ne pas être, cette chose nécessaire, Marie l'a choisie. Jésus ne dit pas ici que s'occuper des divers soins domestiques n'aurait aucune place sous prétexte qu'on est disciple de Jésus. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que dans cette situation, c'est Marie qui a choisi la bonne part. Marie a choisi la meilleure part, est-il traduit dans d'autres versions. Quoi comprendre avec cette attitude, ce choix de la meilleure part? En s'étant assise au pied de Jésus et en écoutant sa parole, verset 39, Marie se met dans une attitude de disciple. Et rien, rien ne réchauffe autant le cœur de Jésus. On sait que dans la culture juive en particulier, les disciples se placent au pied de leur maître. D'un côté, avec cette attitude, ils indiquent le choix du maître qu'ils veulent écouter. C'est celui-ci, sous-entendu, pas un autre. D'un autre côté, ils se mettent physiquement sous ce maître comme une posture d'écoute et de soumission. C'est donc cette attitude, cette posture de disciple qui fait tenir à Jésus de tels propos. Marthe, Marthe, toutes ces choses, c'est pas mauvais en soi, mais écoute-moi, je ne viens pas tous les jours chez toi. Et aujourd'hui, je viens exprès et tu ne te rends pas disponible pour moi. J'apprécie ta cuisine, Marthe, j'aime particulièrement tes lasagnes aux épinards. Et j'apprécie que tu aies rangé le salon, il n'y a aucune toile d'araignée, toutes les chaises sont bien les unes à côté des autres. Mais crois-moi, ce que j'apprécierai encore plus que le fruit de ton service, c'est ton attention, c'est ton écoute, c'est même ton cœur. Ces paroles ne sont pas dans toutes les versions, et même dans aucune d'ailleurs. Je préfère le préciser, ce n'est pas dans les meilleurs manuscrits. À côté, lorsque Jésus passe par là, on imagine Marie lâcher ses affaires. Jésus passe, elle s'arrache à ses affaires et se dispose à choisir la bonne part, la meilleure part. Je ne crois pas que Dieu s'attende à ce que nous passions notre vie entière la tête dans la Bible. Parce qu'alors on se priverait d'aimer notre prochain en action. Dieu ne nous encourage pas à fuir nos responsabilités. C'est même tout le contraire. Mais Dieu s'attend à ce que nous hiérarchisons nos priorités. Il s'attend à ce que nous hiérarchisons nos priorités. Jésus veut encourager Marthe à ne pas se laisser absorber par quantité de choses au point de passer à côté du meilleur. Et nous voyons ici chez Jésus une parole bienveillante. De même, Dieu ne voudrait assurément pas, en ce début d'automne, que nous passions à côté de l'essentiel pour l'année qui est devant nous. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel? Quels sont vos gros cailloux? Jésus ne se réjouit pas vraiment si l'attention, la disponibilité, le cœur de Marthe lui revient non prioritairement. Car c'est ça qui est bien regrettable. Les nombreuses choses légitimes de Marthe la privent de l'essentiel. Et lorsque Jésus sera reparti, l'appartement sera nickel, on pourra peut-être même lécher le sol. Par contre, elle n'aura pas pu profiter de la présence bienfaisante, transformante de Jésus. Jésus ne souhaite pas, dans le un à un qu'il désire avec ses disciples, Jésus ne souhaite pas les miettes, il est digne de davantage que des miettes. Le grand réformateur du XVIe siècle, Martin Luther, avait une habitude qui pourrait sembler étonnante. Plus il avait de choses dans sa journée, et plus longtemps il passait du temps avec Dieu en début de sa journée. Dans cette troisième partie, j'aimerais faire un constat, ou plutôt une série de constats. Cinq constats. Le premier, c'est le constat du bon sens. Pourquoi du bon sens ? Si nous accueillons une personne très importante à nos yeux, nous cherchons à profiter de sa présence, n'est-ce pas ? Si une personne importante à nos yeux, que nous ne voyons pas tous les jours, passe chez nous et que nous nous employons pendant sa présence à balayer les moutons sous les radiateurs, est-ce que nous profitons vraiment de sa présence ? Pourquoi encore du bon sens ? Et là, je cite un homme qui a 5 enfants, une vie bien pleine, et il dit « Commencer la journée sans la prière et de suggérer que le diable est faible, que Dieu n'a pas d'importance et que nous pouvons gérer les choses nous-mêmes. C'est mécomprendre que nous avons besoin de Jésus. » Et il rajoute « Nous n'arriverons pas à résister au vent de folie qui s'abat sur nous tant et aussi longtemps que nous ne passerons pas plus de temps avec Jésus. » Alors ne choisissons pas plus longtemps le tapage de ce monde plutôt que les pieds de Jésus. Ne choisissons pas plus longtemps d'être dans l'occupation infinie, l'occupation est infinie, plutôt que d'être dans la bénédiction de Dieu. Martin Luther, je recite, disait « Veillons à ne pas nous laisser détourner de la prière » sous prétexte que telle ou telle tâche est plus urgente, ce qu'elle n'est pas en réalité, et ainsi à devenir négligent, paresseux, insensible et soucieux. Le diable, lui, qui rôde autour de nous, n'est ni négligent, ni paresseux. Je vois dans ma propre vie un lien de cause à effet. Je remarque d'une manière générale lorsque je fais le constat que je gère mal mes priorités, mes relations. Comme par hasard, c'est que mon moment d'intimité avec mon Dieu a été bafoué. C'est souvent le cas. Et à l'inverse, je suis surpris de constater que telle belle chose a été vécue, telle belle action a pu être inspirée, telle belle pensée, après avoir partagé un moment d'intimité avec Jésus. Je suis sûr que vous faites le même constat dans votre propre vie. Donc, du bon sens. Et même si c'est du bon sens, c'est pourtant aussi un combat. Parce qu'en parlant de bon sens, je suis aussi conscient que c'est souvent un combat pour nous tous que d'arracher un moment de qualité, comme le fait Marie, au pied de Jésus. Je prêche sur ce texte qui m'interpelle beaucoup et que j'ai beaucoup à cœur, et pourtant, je vois moi-même le combat dans ma propre vie de savoir arracher du temps avec le Seigneur Jésus. Et je n'ai pas que des victoires, loin de là. Donc c'est un combat. S'asseoir au pied de Jésus ne va pas se faire tout seul. Nous devons être conscients de ça. Je disais tout à l'heure que les tâches domestiques et tout le reste ne se font pas tout seul. Marthe l'avait bien compris. Mais Marie avait certainement compris que se mettre au pied de Jésus non plus ne se fait pas tout seul. Arracher un moment au pied de Jésus, c'est un choix qui se fait délibérément, c'est un choix intentionnel, c'est donc un combat, c'était mon deuxième constat. Après, le constat du bon sens, c'est le constat du combat. Et du coup, nous avons, troisième constat, un équilibre à trouver. J'ignore comment c'était la vie, finalement, il y a 2000 ans en arrière, dans une maisonnée moyenne. Mais il faut reconnaître que de nos jours, nos listes peuvent être absolument infinies. Nous pouvons passer nos journées, nos semaines, je ne sais pas comment vous fonctionnez, à cocher des listes, ou être dans des quêtes pour cocher des listes. Et nous existons finalement pour cocher nos listes. Nous trouvons notre satisfaction lorsque nous avons coché. Et lorsque nous ne cochons pas, nous pouvons même être angoissés. Je sais de quoi je parle. Alors imaginez qu'une personne vienne passer une semaine chez vous, 7 jours à partager votre semaine dans nos baskets. Il y a un an, il y a un missionnaire qui m'a appelé, qui cherchait une église pour servir, et il m'a dit « Jean-Yves, est-ce que je peux passer 3 jours chez toi ?» Oui. On ne se connaissait pas du tout. En observant notre semaine, quelle serait la chose que la personne qui viendrait qualifierait d'essentiel pour nous simplement en nous observant, en nous voyant vivre? Est-ce que cette chose importante serait la relève de nos courriels, la consultation de forums, le shopping, l'entretien de nos réseaux sociaux, notre érudition sur l'actualité du moment? Nous savons tout, quelle connaissance! Le maintien de notre forme athlétique, notre travail une fois que nous avons fini notre journée de travail. Alors je vois 2 extrêmes à éviter. Pour certains, la contemplation de Dieu ou l'étude biblique, lorsqu'elle fuit les responsabilités et évite d'agir et d'aimer son prochain. Ça, c'est un extrême. Pour d'autres, l'extrême, ce serait l'activisme lorsqu'il fuit le 1-1 avec le Dieu créateur. Et si nous voulons éviter ces 2 extrêmes et trouver un juste équilibre, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et nous lui demandons cette sagesse. L'Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour tout. Il est certain que si mon seul moment avec celui qui m'a tout donné se résume essentiellement à une lecture quotidienne d'un petit feuillet biblique, ou bien d'une courte prière avant un repas, il est évident que je passe à côté de bien des bénédictions que le Seigneur en réserve pour ses enfants, pour ses amis, tels qu'il nous appelle. Et nous ne voulons pas passer à côté de ces bénédictions, n'est-ce pas? 4e constat, c'est une opportunité à saisir. En cette période de début d'automne, la rentrée est un peu derrière, mais peut-être pas complètement, j'aimerais plutôt nous encourager à considérer la qualité du moment et la fréquence du cœur à cœur que nous avons avec la personne la plus importante de l'univers. Jésus a tout mis de côté pour venir nous sauver. Et je vous ai parlé de Martin Luther qui passait d'autant plus de temps avec Dieu que son programme s'annonçait chargé et difficile. Et bien entendu, ce n'est pas le seul fait d'ouvrir sa Bible et de prier qui va tout changer. Bien entendu, le fait d'ouvrir sa Bible et de prier ne modifiera même pas forcément du tout les circonstances que nous rencontrerons ou qui nous tomberont dessus. Mais Jésus n'a pas promis le ciel bleu pour ses enfants. En revanche, ce qu'il affirme, Jésus, c'est que de l'écouter, c'est de choisir la bonne part. Et ça, nous allons le faire, et nous le faisons par la foi. C'est un pas de foi. Nous croyons que Jésus dit vrai en disant ça. Si je suis honnête, il m'arrive, comme à vous, je suis certain, d'avoir des moments délicieux en tête-à-tête avec le Seigneur Jésus. Et dans la même journée, quelques heures après, peut-être même quelques minutes parfois, de faire des sorties de route, en parole, en pensée, en acte, en termes de priorité. Donc avoir l'habitude de faire un culte personnel avec Dieu ne garantit pas que nous ne ferons pas de sortie de route. Mais on ne va pas se flageller, on est en chemin, on est tous en chemin. Néanmoins, hiérarchiser nos priorités en choisissant la bonne part reste quand même le chemin prévu pour se donner les meilleures chances de vivre ce que nous avons à vivre ici-bas. Les meilleures chances d'entrer dans ces œuvres prévues d'avance par le Dieu créateur. Et ça, c'est une vraie source de motivation, une très belle opportunité à saisir. C'était donc mon quatrième constat. Et le cinquième constat me fait parler d'habitude. Une question d'habitude. Pour la plupart d'entre nous, nous avons remarqué que la manière la plus efficace de changer nos habitudes est de nous concentrer sur une seule habitude à la fois. Une habitude clé qu'on va repérer. On va se concentrer sur une seule habitude. Et si ça se trouve, en nous concentrant sur l'essentiel dont Jésus parle, sur la bonne part, la bonne habitude à mettre en place en ce début d'automne, nous éviterons de nous laisser absorber, accaparer par les mille habitudes responsables du rythme effréné de notre vie. Et si ça se trouve, nous expérimenterons moins d'énervement, moins d'impatience, et aussi davantage de joie et davantage de victoire. Application pratique, peut-être que ça va se traduire par une fin de journée qui est un peu différente. On va écarter la tablette un peu plus tôt pour terminer la journée avec la pensée de Dieu. Ou bien au moment du réveil, on démarre avec la pensée de Dieu. Peut-être, ou sûrement, ça va demander d'avoir à se priver de telle ou telle chose. Peut-être tel ou tel programme de télévision ou autre, vous savez quoi mettre derrière. Mais tout ça pour plus d'intimité avec Jésus. Alors ça va nous faire mettre de côté des distractions, des activités qui sont tout aussi légitimes. Et ça va favoriser notre vécu, notre marche en Christ. Alors quelle joie de choisir la meilleure part, celle que personne ne peut nous ôter, ni les circonstances. Et j'aimerais maintenant, dans cette quatrième partie, vous inviter à prendre la parole, partager ensemble, à voix haute, quelques bienfaits spirituels que nous expérimentons lorsque nous faisons du cœur à cœur avec Jésus une priorité. Qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce que vous expérimentez? Cette bonne part d'être au pied de Jésus et de l'écouter, qu'est-ce que ça génère dans notre vie? Je vous laisse la parole. Jésus nous donne à le côtoyer un regard qui va être beaucoup plus juste sur les choses, sur les personnes, sur nous. Et j'ai fait une liste d'une page, mais très rapidement, de manière synthétique. Si ensemble, on regardait, on prenait le temps de continuer ce temps maintenant là, on ferait des pages de ce que Jésus est capable de faire dans notre vie, de ce que nous sommes capables de faire, mais de ce que Jésus nous rend capable de faire dans notre quotidien, parce que nous nous abreuvons à la source de la vie. La bonne nouvelle, c'est que si nous sommes déjà enfants de Dieu, nous allons nous régaler de cette bonne part. Et des fois, il y a de l'habitude à prendre. Et si nous ne sommes pas encore ses enfants, nous n'avons pas à douter que d'être au pied de Jésus, c'est à la portée de tous pour une vie transformée, qui vaut tout l'or du monde. Alors je vais conclure. Souvenez-vous de cette expérience du vieux professeur avec les cailloux, les gros cailloux. La bonne part, les gros cailloux, c'est l'intimité avec Jésus. Il n'y a pas que ça, mais c'est l'essentiel. Ensuite, il y aura des graviers, il y aura du sable, il y aura de l'eau, éventuellement. Jésus ne dit pas que les missions domestiques ne sont pas importantes. Il ne faudrait pas repartir chez soi en se trompant. Il le dit plutôt qu'il y a encore plus important. Pourquoi Marthe doit se remettre en question et se repentir? Pour son bien, pour qu'elle puisse vivre l'essentiel, et pour le bien aussi des personnes qu'elle va côtoyer. Le manque de satisfaction ne permettra pas de goûter ce que Jésus réserve à ceux qui choisissent la bonne part. Dit autrement, Choisir la bonne part va aussi nous apporter une satisfaction différente dans notre quotidien. Béni soit Marie qui ne pense pas que réussir sa journée serait simplement avoir réussi à cocher ses listes, mais d'y avoir plutôt inclus l'essentiel. Et ensuite, le reste va découler. L'action va découler. La nature de l'action, le type de l'action, etc. La manière d'aimer autour de nous. Le fait de s'asseoir au pied de Jésus est un bon départ. Et c'est en écoutant Jésus, comme le texte le dit, que Marie a choisi la bonne part. Être au pied de Jésus, si je ne l'écoute pas, ça ne sert pas à grand-chose. Mais Marie écoute Jésus. Et je vous pose cette question. Après la visite de Jésus, avec qui aimeriez-vous passer du temps ? Plutôt avec Marthe ou plutôt avec Marie ? Qui des deux sœurs se positionne idéalement pour porter des fruits ? Du coup, qui voulons-nous éviter ? Pardon, éviter mais aussi imiter. C'était imiter que je voulais dire. Mais qui voulons-nous éviter aussi ? Les paroles de Jésus se font l'écho de celles de son Père Céleste qui avait dit, il avait annoncé très tôt la couleur, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et le pain, c'est bon. Mais l'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. J'ai trouvé cette citation intéressante. Même si Jésus apprécie tout ce que nous faisons pour lui, il sait que notre besoin prioritaire est de nous asseoir à ses pieds et d'apprendre sa volonté. Alors, nous serons en mesure d'accomplir plus aisément nos missions, nos responsabilités, calmement, paisiblement, aimablement. Et finalement, notre service atteindra le même degré de perfection que celui de Marie qui plus tard versa sur les pieds de Jésus un parfum qui continue d'embaumer le monde entier. Ce moment de l'année dans lequel nous sommes reste une opportunité, est une opportunité pour mettre encore en place des bonnes habitudes. Alors autant choisir les meilleures de ces habitudes, autant choisir l'essentiel, le gros caillou en premier, et je nous encourage à choisir intentionnellement la bonne part, celle qui ne nous sera pas retirée. Alors que Dieu soit béni, il va nous encourager dans cette perspective. Amen.